One, two, three, four. Crazy Afrobeat.
Radio Django, le grand direct, 18-19h.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour votre heure de vie lausannoise, c'est le grand direct de Radio Django. Je suis très heureux de vous retrouver ce mardi 12 juin pour parler de forêt, de crowdfunding, de théâtre et de découverte littéraire. Mais on va commencer avec toi Samuel, bonsoir.
Bonsoir Fabien.
Nous allons parler de forêt à l'occasion des 175 ans de la Société forestière suisse.
Oui, tout à fait. La société a invité des peuples premiers à discuter avec les forestiers suisses. Et ça s'est passé à la forêt de Montcorps il y a quelques semaines de cela.
Et on en fait écho avec un invité ce soir?
Avec Jean Rosset, président de la Société forestière des Suisses des forestiers.
Voilà, tout ça dans quelques instants au menu de Vivre à Lausanne. À 18h15, nous parlerons de crowdfunding avec Claudia. Vous savez, c'est une opération de récolte de fonds pour financer une partie des activités d'été qui auront lieu dans différents quartiers de Lausanne. On en discute tout à l'heure dans une quinzaine de minutes. Au menu de La Rose des Vents, ce sera avec toi, Daniel. Bonsoir.
Bonsoir, Fabien.
Nous parlerons de théâtre à l'occasion d'une pièce conjointement réalisée entre le collectif R et Métis Arte.
Alors oui, c'est une pièce originale sur la migration que l'on aura donc l'occasion de découvrir avec une journaliste, une animatrice et une personne spécialisée en droits humains et une personne impliquée dans le cadre de la migration. Si ceci est le résultat d'un long travail collectif qui a débuté en 2015 et des ateliers de théâtre à la création de la pièce, ce processus de création bouscule certaines idées reçues sur les migrants et surtout permet de leur donner la parole et d'exister.
Ouais, c'est un bon exercice de prononciation.
Absolument.
Vous faites de la radio, comment ça s'appelle déjà?
Si ce c'est.
Bravo, on va s'entraîner tout à l'heure dans La Rose des Vents à 18h20. Et puis pour finir cette émission à 7h20, ce sera Cultiver Lausanne avec Linda. Nous allons découvrir quelques idées de lecture proposées par la librairie Basta, des idées de lecture estivales certainement que vous pourrez prendre sur la plage, en tout cas c'est tout le mal qu'on vous souhaite. La forêt pour les 175 ans de la Société forestière suisse, de la récolte de fonds pour des places au soleil, une pièce de théâtre signée le collectif R et Métis Arte et des suggestions de lecture de la librairie Basta, c'est le menu de cette 150e édition du Grand Direct sur Radio Django. Écoutez évidemment sur radio.django.fm et sur le DAB grâce à La Fabrique. Et puis ce soir, une nouvelle fois après le Grand Direct, rendez-vous avec À Propos, rendez-vous d'une petite demi-heure avec des billets de la rédaction sur certains mouvements naissants à Lausanne. Ce sera juste après cette émission à partir de 19h. Mais pour l'instant, partons direction Lausanne pour ce grand direct. Je suis Fabien, je vous accompagne jusqu'à 19h. Bienvenue à vous.
Radio Django, vivre à Lausanne.
Bonsoir Samuel.
Bonsoir Fabien.
Ce soir, dans la rubrique Vivre à Lausanne, est placée sous le signe de la nature, puisque tu nous emmènes dans l'univers de la forêt, Samuel.
Oui, grâce à l'invitation de la Société forestière suisse, qui fête cette année ses 175 ans d'existence. À cette occasion, elle a organisé une rencontre entre des forestiers suisses et des peuples premiers. Le thème de ces dialogues était l'universalité de la forêt et rassemblait des personnes venues du Brésil comme de l'océan Pacifique. C'est une rencontre qui se déroulait justement dans une forêt, la forêt de Montcorps, à quelques arrêts de bus de Fribourg.
Et nous avons le plaisir ce soir d'en parler avec vous, Jean Rosset. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur Radio Django. Vous êtes président de la Société suisse des forêts. Les peuples premiers, hein, comme le disait Samuel à l'instant, que vous avez conviés, vivent au cœur de la forêt. Vous rappelez que nous aussi, les Suisses, sommes un peuple de forêt. Nous n'y vivons plus, hein, mais dites-vous, nous avons des liens spéciaux avec la dite forêt. Quel genre de rapport les Suisses du 21e siècle ont, eux, avec la forêt ? Avec leur forêt peut-être?
Alors ils en ont énormément en fait. La forêt c'est quelque chose d'extraordinaire, ça couvre un tiers du territoire suisse et puis il y en a dans toutes les communes suisses. Donc je crois qu'il y a une étude qui dit qu'il y a 90% des Suisses qui ont la forêt à moins de ou à 10 minutes de chez eux en transport public. Donc je pense que la forêt elle est présente pour chaque Suisse, en tout cas possiblement présente pour chaque Suisse. Physiquement, mais probablement aussi un peu émotionnellement. Alors là, ça ouvre tout un chapitre.
Ah ben oui, effectivement.
Mais...
Alors, vous avez convié au dialogue, comme on le disait tout à l'heure, des gardiens de forêt. D'un côté, les forestiers suisses, et de l'autre, des représentants des peuples premiers. Il y avait notamment des Uniquin et des souris qui venaient d'Amazonie, des Kanaks de Nouvelle-Calédonie, des Maoris de Nouvelle-Zélande. Et vous-même avez eu l'occasion de séjourner en Amazonie. Est-ce que cette rencontre a changé votre vision de la forêt et peut-être votre travail dans la forêt ici en Suisse ?
Oui, donc j'ai eu effectivement, on a été invité avec un groupe de personnes largement de la région lausannoise par un chef de tribu amazonienne à séjourner pendant une dizaine de jours dans leur village. Et ce séjour m'a profondément touché et profondément bouleversé, effectivement. Donc je ne vois plus la forêt, le vivant, la nature, de la même manière que celle que je voyais jusqu'à maintenant, qui était en fait imprégnée de ce que j'ai appris au Poly à Zurich et disons du monde dans lequel je travaille. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui m'a complètement ouvert les idées, l'esprit, le cœur et beaucoup de choses.
Samuel, parmi ces forestiers venus de toute la Suisse, tu as demandé à Diane Moratel, inspectrice des forêts, 2e arrondissement du canton de Vaud, ce qu'elle attendait de ces échanges. On l'écoute.
Mon attente principale, je dirais que c'est d'essayer de comprendre et d'essayer de trouver des pistes de comment allier notre mode de vie, notre façon à nous de voir la forêt, de l'entretenir, de l'exploiter. Et puis une approche différente avec une autre vision de la forêt, peut-être plus émotionnelle ou plus... qui passe moins par la tête et les calculs, et de voir comment est-ce qu'il y a des possibilités d'allier le tout dans notre monde d'Europe centrale.
Alors, le propos de Diane Moratel tenu en début de journée rejoint celui de Frédéric Schneider, qui est ingénieur forestier en charge du 1er arrondissement de canton de Fribourg. Je l'ai rencontré après le repas. Au menu, il y avait des sangliers qui avaient passé la matinée à rôtir au feu de bois. Et après cette matinée d'échange avec des représentants de tribus amazoniennes, je lui ai demandé ce que lui avait inspiré ces échanges.
Ça inspire quand même une certaine humilité, une différente approche de la forêt, de la voir sous un angle plus sympathique, peut-être plus coloré, plus détendu, un peu moins justement sur le, je dirais, sur l'aspect plutôt économique qu'on a souvent l'habitude. Comme je dis, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est cette approche quand même très, très directe, très vraie avec la forêt. Et ça, je pense que notre société pourrait vraiment s'inspirer de ça. Mais là, il y a encore du travail.
Alors, Jean Rosset, ces deux professionnels des forêts suisses évoquent une autre approche de la forêt, un petit peu comme vous l'avez fait tout à l'heure. Vous dites qu'on est beaucoup plus connecté qu'on ne le pense avec le monde vivant et qu'on entre dans une période où vous, forestiers, allez peut-être devenir des gardiens un peu différents, ouverts à d'autres dimensions. Quel genre de gardien les forestiers suisses pourraient-ils devenir ?
Bon, ça, l'avenir nous le dira. Mais si on va aujourd'hui dans une librairie, on voit qu'il y a énormément de livres qui parlent de la forêt, et basés très largement sur des connaissances scientifiques. Donc je crois que même notre science est arrivée maintenant à expliquer, à donner des explications qui entrent un peu dans la complexité du vivant. Et puis si on s'intéresse à ça, si on met toutes ces informations ensemble, on commence un peu à découvrir une nouvelle manière. C'est pas juste des molécules, c'est pas juste des réactions chimiques, mais ça va largement au-delà. Et je pense que les peuples premiers ont découvert ça depuis très longtemps, et probablement que notre culture aussi avait cette connaissance. Mais voilà, depuis quelques siècles, on est parti sur un chemin très différent. Donc l'idée de cette rencontre, c'était de faire un échange, de faire un dialogue entre nous forestiers ici et forestiers d'ailleurs. Maintenant, pour ce nouveau rôle, je pense qu'il pourrait émerger. Aujourd'hui, on est environ, en Suisse, j'ai calculé, environ 300 personnes qui s'occupent d'environ un tiers du territoire. C'est très peu de monde. Et en quelque sorte, la société, à travers les lois, à travers les finances publiques, etc., nous donne ce rôle de nous occuper de ce patrimoine. Et on le fait avec les outils du moment, qui sont largement des outils basés sur des modèles de production, etc. On doit fournir du bois, on doit fournir des prestations, on est payé pour ça, etc. Mais je dirais que l'aspect de gardien d'un patrimoine universel, de cette partie du vivant qui est restée préservée sur un tiers du territoire, celui-ci, il est en chacun d'entre nous, mais il n'est pas encore appréhendé officiellement, je dirais, par les institutions. Donc c'est peut-être ça qui c'est peut-être ce chemin qui va se faire ces prochaines décennies, on verra bien. C'est un peu une hypothèse pour le moment.
D'accord, alors il y a un parallèle qui en revanche était assez frappant dans les discours que tenaient à la fois les forestiers suisses et les représentants des peuples premiers, c'est l'aspect de la temporalité dans laquelle nous plonge la forêt, c'est un temps long. Comme le souligne d'ailleurs Jean-Louis Guay, inspecteur des forêts du 3e arrondissement du canton de Vaud.
Un arbre met au minimum plus de 100 ans pour se développer. Suivant ce qu'on attend, il ne sera pas intéressant avant 300 ans. Donc si on a un désir par rapport à une forêt, il faut prendre en compte ce que le passé, voir si c'est possible de modifier ça et puis d'accompagner cette modification. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre aussi des décisions unilatérales, parce que peut-être dans 40 ans, c'est plus ce qu'on veut, et nos successeurs n'auront pas, si on a fait des erreurs, n'auront pas une palette plus petite pour faire des choix futurs.
Alors Jean Rosset, dans notre société où la temporalité se mesure aux quelques millièmes de secondes nécessaires à l'envoi d'un tweet ou d'un email, dans cette société où l'immédiat prévaut, même en politique, est-ce que c'est compliqué de faire comprendre la temporalité longue de la forêt, qu'évoque Jean-Louis Guay, notamment en matière de politique publique ?
Oui et non. Je pense que, d'une part, oui, parce que chacun a cette expérience de la forêt. Donc, c'est quelque chose, justement, auquel tout le monde a été confronté. Donc, je pense que ce n'est pas compliqué de comprendre qu'un arbre met du temps à pousser, etc. Donc, je dirais, ça passe assez facilement. Après, ce qu'on voit au niveau des finances publiques, très souvent, quand il y a des économies à faire, eh bien, très souvent, on va les faire sur la forêt. Parce que, justement, comme ça peut attendre, comme on n'est pas à la semaine, au jour, ou au mois, même à l'année près. Et c'est vrai, la forêt, finalement, elle n'a pas besoin de nous, elle pousse. Donc, il y a un peu des deux.
Alors, un des corollaires de ce temps long, c'est la patience, évidemment, et l'humilité. Et c'est deux termes qui sont revenus assez souvent dans les échanges que j'ai eus avec vos collègues dans cette forêt à Moncor. Et Jean-Louis Guay en parle assez bien. On l'écoute.
C'est un temps très long que vous décrivez. La forêt, ça apprend la patience.
Oui, 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 absolument. L'observation, l'humilité. Et oui, la patience, absolument. Et oui, il y a certaines choses qu'on fait après quelques décennies, on se dit « Ah, ça va dans le bon sens, mais on n'est pas sûr que ça réussisse. » Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on respecte les anciens en général. Et puis on essaye, c'est important de savoir ce que les gens voulaient faire. Quoi. Oui, la patience et le respect.
Cette journée de rencontre a aussi été l'occasion de partager des chants suisses et indiens. Une douzaine de yodelers ont montré comment on s'interpellait autrefois en Suisse, d'une montagne à l'autre.
quelques notes de yodel qui nous font voyager dans notre beau pays. Samuel, tu as également rencontré Edouard Itowai, un artiste néo-calédonien, gardien de la mémoire du peuple Kanak. Il évoque lui aussi ce temps long et réagit à la manière dont on gère nos forêts en Suisse.
Je trouve qu'ici, vous êtes très engagés. Tandis qu'en Nouvelle-Calédonie, il faut encore se battre pour faire réveiller les consciences. Et c'est ça qui est dommage. Là-bas, on a utilisé du bois sans replanter derrière. Les sociétés ont travaillé pour couper un bois très noble, qui a toutes les qualités, c'est le houp. Mais quand on leur dit de replanter, ils disent qu'ils mettent du temps à pousser. Mais ils n'ont pas mis de temps pour gagner des sous, pour ramasser les sous.
C'est un gros problème, la déforestation en Nouvelle-Calédonie.
C'est un gros problème. Elle a commencé pour l'élevage et l'agriculture. Après, ce qui a suivi, c'est sur les abords des rivières. Ce qui fait fuir l'eau, ça veut dire qu'on appauvrit non seulement la terre, mais on va la sécher, les rivières. Les nappes phréatiques vont descendre et les sources vont disparaître. Si on n'a pas conscience de ça, de donner les bonnes règles de conduite pour chacun, le risque sera imminent.
Alors Jean Rosset, quand la société forestière suisse a été fondée il y a 175 ans, les forêts suisses étaient elles aussi menacées à cause de leur surexploitation. Comme en Nouvelle-Calédonie, qu'est-ce qui les avait mises en danger à l'époque ?
Alors à l'époque, c'était avant l'industrialisation, donc avant les gros transports de charbon, avant l'électricité, et toute la force utilisée pour les premiers pas de l'industrialisation était faite avec largement de la chaleur issue du feu. Donc les machines à vapeur, et des moulins, etc. Et ça, c'était une partie. L'autre partie, c'était tout ce qui était chauffage. Donc, les grandes villes du pays étaient alimentées avec l'eau, le bois qui était flotté sur l'eau. Et puis, la troisième chose, c'était toute cette économie alpestre. Ces gens n'avaient pas d'autre chose pour survivre que leur bétail. Et puis, ils mangeaient un peu tout ce qui poussait. Enfin, le peu qui poussait, qui restait après avoir été abattu pour être transporté dans les villes, était encore brouté par le bétail. Donc l'un dans l'autre, c'était une image assez catastrophique. Et il y a eu des grandes catastrophes il y a environ 200 ans. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu une prise de conscience politique et que c'est dans ce contexte-là qu'est née la première loi fédérale sur les forêts, qui est aujourd'hui encore très, très restrictive et qui protège très bien nos forêts. Mmh.
Alors, en fin de journée, la conseillère nationale verte Adèle Torrance, qui était également venue pour participer au débat, a raconté le lien fort qu'elle entretient avec les représentants des peuples premiers. On l'écoute avec quelques bribes de l'interprète qui traduisait les propos pour les autres Brésiliens.
Nous venons tous de cultures et de régions très différentes et éloignées, mais l'amour et la relation à la forêt, c'est la même. Et chaque fois que je rencontre des personnes comme aujourd'hui, ça me donne beaucoup de force pour continuer à me battre.
Molto mais forcé par continuer plus tard.
Et je vous remercie tous qui avez témoigné aujourd'hui de votre vécu et de votre amour pour la forêt, parce que chaque fois que je devrais me battre, je penserai à vous et ça va me donner de la force.
Et vous, Jean Rosset, est-ce que les rencontres de cette journée avec d'autres gardiens de forêt vous ont donné de la force ?
Oui, absolument. C'est très difficile à résumer en une seule phrase, mais il y avait vraiment des personnages extraordinaires. Vraiment, c'est des morceaux très importants de notre sagesse humaine qui sont peu connus, mais qui sont d'une force extraordinaire. Et je rejoins ce que dit Adèle Torrance. C'est vrai que c'est aussi ça qui me donne du courage. C'est de se rendre compte qu'il y a ailleurs aussi d'autres personnes qui s'engagent pour cette planète. Une des choses qui m'a beaucoup touché quand j'étais pendant ces jours en Amazonie, c'est que quand ils replantent des arbres, ils ne le font pas pour eux, ils le font pour toute la planète. Ils le font avec cette conscience de servir quelque chose de plus grand, de plus vaste, d'honorer cette nature. Et ça, c'est une attitude qui est absolument extraordinaire et qui donne beaucoup de courage aussi dans notre action ici.
Du courage, c'est ce qu'on retiendra de vos propos et on espère aussi que tous nos auditeurs se verront chargés de ce courage pour lutter à vos côtés. Merci beaucoup Jean Rosset d'être venu ce soir nous parler de cette journée, de cette rencontre entre forestiers suisses et peuple premier. Une bonne soirée à vous.
Merci.
Je rappelle que vous êtes président de la Société suisse des forestiers. Et pour clore cette rubrique et ce rendez-vous, on écoute un chant de Ninawa Huniquin, un chaman de l'Est brésilien. Cette chanson parle à la forêt et de la forêt.
On m'a demandé souvent ce matin, mais est-ce que vous parlez avec la forêt? Ben, là, je vais lui parler.
Ah, oui.
Ninawa Huniquin pour parler et chanter la forêt. Un sujet ce soir que nous traitions, la forêt, qui nous était proposé par Samuel. Un sujet à retrouver sur notre site www.django.fm. Bonsoir Claudia.
Bonsoir.
Ce soir, tu nous proposes de parler d'une campagne de récolte de fonds participative lancée par un groupe de 9 animateurs et animatrices de la Fondation pour l'animation socioculturelle. Tout ça afin de financer les activités des places au soleil.
Oui, exactement Fabien. La campagne qui a été lancée le 15 mai et terminera le 9 juillet a comme objectif d'aider à financer une partie des activités d'été dans les quartiers des Bellevaux, Grand-Veine, Pontaise, Pré-la-Valency, Malais-Montéi, Faverges, Beauvresse, Bourdonnette et Chailly. Véritable moment de rencontre et d'échange, les places au soleil donnent rendez-vous aux enfants, aux jeunes et aux familles les premières et dernières semaines des vacances scolaires. Sur les différentes places des quartiers de 9 centres d'animation, proposent des activités d'été, des ateliers créatifs et des jeux d'extérieur. Entre terre, eau, feu et vent, les 4 éléments sont le fil conducteur des activités de cette année, avec un programme très varié, spectacle de rue, atelier cerf-volant, fusée à eau, son système solaire et autres encore.
Et on vous propose maintenant d'écouter un petit extrait qui a été enregistré dans le quartier d'Isabelle de Montelieu, à Grand-Veine, par les jeunes habitants et participants des Places au Soleil.
Bonjour, je m'appelle Ramizet.
Et moi, Loressa.
Et moi, Dielona.
On est là pour les Places au Soleil, on vient du quartier de Montelieu.
C'est une activité qui a lieu sur les places de jeu. Si on ne part pas en vacances,
on peut faire des activités sur la place. Il y a même des spectacles et glissades.
Grillades, piscine et goûter.
Aidez-nous à financer ce projet.
un objectif financier pour financer les Places au Soleil qui tentent pour la première fois une campagne de crowdfunding, par le biais de la plateforme de la Raiffeisen destinée aux associations locales, héros locales, et de 3000 francs, évidemment, c'est l'objectif. Toutes les informations sur le site www.localhelden.ch. On vous met bien sûr le lien sur notre site internet django.fm. Merci Claudia. Comment est-ce qu'on peut pas ne pas danser sur cette magnifique chanson? Ça dansait d'ailleurs autour de la table avec l'équipe de La Rose des Vents. Goodbye Yellow Brick Road, c'est signé Elton John sur Radio Django à 18h28.
Radio Django, La Rose des Vents.
Bonsoir Daniel.
Bonsoir Fabien.
Ce soir dans La Rose des Vents, place au théâtre avec la troupe RSI. L'occasion de découvrir si c'est une pièce originale sur la migration née d'une collaboration entre le collectif R et Métis Arte. Pièce programmée ce samedi même, le 16 juin, pour la journée des réfugiés à Lausanne. Le collectif R se bat depuis 2015 contre l'expulsion des réfugiés tombant sous la coupe des accords de Dublin. Bien que le collectif ait pris la décision de fermer son refuge suite à au profond désaccord avec les autorités du canton de Vaud, sa lutte continue. Et puis, Métis Arte est une association qui propose diverses activités artistiques comme le théâtre pour lutter contre les discriminations et créer des ponts en faveur d'une société plus inclusive. Daniel, le théâtre contemporain reste peut-être une fenêtre ouverte sur le monde ?
Oui, depuis quelques années, le 4e art s'intéresse de plus en plus à divers sujets de société qui interpellent, dérangent, voire divisent. Des questions d'actualité comme la migration, les religions ou encore les enjeux de la diversité culturelle sont des thèmes privilégiés par certains metteurs en scène professionnels et amateurs. Si ce registre entend dénoncer, faire prendre conscience ou encore sensibiliser, il y a un bémol. Le discours des personnes concernées est porté par d'autres. On parle au nom d'eux.
Mais est-ce que ce n'est pas plutôt le propre du quatrième art, j'ai envie de dire ?
Pas nécessairement. Il existe différentes manières de faire du théâtre et plusieurs registres le caractérisent. La pièce et le processus de création dont nous parlerons ce soir s'inspirent du théâtre de l'opprimé d'Augusto Baol.
Et pour en parler ce soir, nous avons le plaisir de recevoir trois invités, Claudia Pessina, Sheila Mengual et Kertingan Sivakumar, trois invités étroitement impliqués dans cette pièce, Si ceci se sait, une pièce qui met en scène le parcours d'acteurs et d'actrices issus de la migration et le regard de militants engagés dans la défense des droits des migrants. Tout d'abord, bonsoir Claudia Pessina.
Bonsoir.
Journaliste de formation, vous êtes aujourd'hui animatrice socioculturelle à Pôle Sud, accessoirement pour Django aussi, mais ça, on le dit pas. Vous êtes formée en éducation populaire et en animation théâtrale. Vous êtes à l'origine de la troupe RSI. Tout ce programme.
Oui, bien une complet. Des personnes à l'origine.
Sheila Mengual, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes éducatrice de la petite enfance au Centre Femmes d'Appartenance. Vous avez fait une formation post-grade en droit international et droits humains. Membre de Métis Arte depuis 2 ans, vous faites aussi partie de la troupe de théâtre RSI. Quant à vous, Kertingan Sivakumar, vous êtes étudiant en cinéma à l'École cantonale d'art de Lausanne. Vous êtes originaire tamoul, vous avez fui la guerre civile au Sri Lanka. Vous êtes arrivé en Suisse en 2009. Vous avez également, entre autres, bénéficié du soutien du collectif R. Vous militez aujourd'hui pour la défense des droits des migrants et vous participez activement aux activités de théâtre organisées par Métis Arte en partenariat avec le collectif R. Et vous faites partie de la troupe RSI. Claudia, peut-être pour commencer, comment est née cette collaboration entre Métis Arte et le collectif R ?
Cette collaboration est née en 2015, mars 2015, quand le collectif R a occupé l'église Saint-Laurent. À cette époque, il protégeait un groupe d'Érythréens qui ne parlaient pas un mot de français. Et puis, bien évidemment, ils ne pouvaient pas sortir de cet espace à huis clos, donc avec Sandra Mouri qui s'est... Elle est aussi partie de Métis Arte, donc on est les trois aussi avec Sheila, membre de Métis Arte. On s'est dit, pourquoi pas proposer des ateliers de théâtre pour ces personnes qui ne peuvent pas sortir, donc pour leur offrir une activité. On a commencé comme ça notre aventure avec un groupe d'Érythréens qui ne parlaient pas un mot de français, mais on a réussi à faire des ateliers de théâtre. Et puis, on a, juste quelques mois après, aussi le collectif R organisé une activité dans la rue. Donc, ils nous ont demandé de créer une performance pour présenter au public, pour dénoncer certaines situations. Donc, à partir d'improvisation, on a créé notre toute première performance de théâtre.
Claudia, est-ce que vous pourriez nous raconter cette anecdote où, au départ, étant donné justement qu'il y avait cet écueil de la langue, vous avez proposé des ateliers muets, si on peut dire ?
Alors, on a proposé des ateliers. Nous, on parlait en français. De temps en temps, il y avait une traduction en anglais. De temps en temps, il y avait une traduction en tigrinien. Donc, on s'est débrouillé comme ça. Mais on proposait des exercices de théâtre où ce n'était pas nécessaire d'utiliser la parole. Donc, en allant un peu contre certains... Enfin, il y a des idées de dire, mais on ne fait pas de théâtre avec des migrants parce qu'il y a la barrière de la langue. Au contraire, tu peux communiquer avec le corps, avec le visage... Donc, par exemple, on montrait des photos, puis on disait, à partir de cette photo, créer une image. Et puis, c'était un peu par geste, un peu par...
Et progressivement, est-ce que ça a permis à certaines personnes qui participaient aux ateliers de commencer à maîtriser quelques mots de français ?
À petit à petit. Puis, ce qui était intéressant, le tigrinien a des racines dans l'italien. Donc, parfois, c'était aussi des mots en italien.
Vous avez pu basculer d'une langue à l'autre sans trop de soucis.
Oui, oui, oui.
Kertingan, vous participez à ces ateliers en fait, de théâtre depuis leur création. Comment se déroulait-il et comment se déroule-t-il encore ?
Maintenant, c'est un peu songé. Au début, quand on était au refuge, chaque semaine, c'est toujours le mardi, je pense, il y a une permanence. Pour le théâtre, et voilà, nos metteurs en scène qui arrivent, mais la première fois qu'ils proposent, ben, nous, on ne sait pas, OK, qu'est-ce que c'est un atelier, qu'est-ce que c'est un théâtre, il n'y a vraiment aucune idée. Donc, petit à petit, pour nous, on a pris comme... On n'est pas facilement convaincu à l'époque. On a juste dit, OK, peut-être pour juste passer un peu de temps ensemble, on verra qu'est-ce qu'on fait. Donc, les premières quelques semaines, même quelques mois, je peux dire, simplement, eux, ils nous proposent vraiment des exercices, un peu de jeu qui a un lien fort à théâtral. Mais à ce moment, nous, on ne rend compte pas que ça, c'est un lien fort avec le théâtral. En fait, juste tous les ateliers, tous les exercices qu'on a suivis, ça donnait une confiance pour dire que, ah oui, ça nous permet d'exprimer quelque chose, ça nous permet de créer un lien de nos talents artistiques. Voilà, donc petit à petit, c'est comme ça que ça se construit. Mais maintenant, ça a beaucoup évolué. Maintenant, on est comme un peu d'expérience. Donc, voilà, on commence avec l'exercice, avec le jeu. Après, on tout de suite entré pour le sujet qu'on est en train de faire en pièce de théâtre. Donc, voilà.
Mais dans quelle mesure est-ce que ces ateliers vous ont nourri personnellement? Est-ce que ça permet vraiment d'exprimer des choses qu'on ne pourrait pas dire dans d'autres espaces?
Alors, qu'est-ce que nous nourrit personnellement? Il y a beaucoup de choses. Pour moi, personnellement, je peux dire la liberté, la collectivité, le plaisir, l'amour, la compréhension entre chacun, l'énergie corporelle, la vie. Voilà, on est juste, on oublie ces tombes, ces 12 heures de tranche à ces moments.
Ça permet d'oublier son quotidien,
ouais,
en fait.
Exactement.
Alors, des ateliers, en fait, sont nés après la pièce de théâtre. Écoutons un petit extrait de Si ceci se sait.
Être le Dieu ! Être le Dieu !
Bonsoir et bienvenue à la première édition de l'émission Si ceci se sait. C'est une émission qui ose montrer des choses qu'on ne voit jamais sur les médias qu'on regarde tous les jours. Alors je demande au public, est-ce que vous avez l'habitude de voir des scènes comme ça et surtout une scène comme celle-ci? Un père de famille avec son bébé pointé par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 policiers. Est-ce que vous avez l'habitude de voir ça à la télévision? Sincèrement.
Absolument pas.
Absolument pas. Les autres?
Non.
Non.
Non. Très bien. Est-ce que vous avez envie de savoir qu'est-ce qu'ils pensent, les policiers? Pourquoi ils sont en train de le rejeter?
Oui.
Oui, hein? On va demander. Alors, pourquoi vous êtes en train de pointer un père de famille?
Ils n'ont aucun papier valable. D'ailleurs, ils ont dealer.
Des dealers? Voilà, c'est des dealers. Bonjour, hein, et vous avez quelque chose à dire par rapport au fait que vous êtes en train de le rejeter comme ça?
Vous savez, quand je suis venu ici, moi, il y a 30 ans, je suis venu ici pour travailler dur. Ça, c'est ce que je voulais faire. Maintenant, les gens, ils arrivent, ils font rien. Ils sont feignants, ils dorment dans la roue, ils font du bordel.
Ok, on a compris le propos. Vous êtes migrants aussi, mais c'est les autres migrants qui font rien et qui ne travaillent pas, ils volent le travail. Mais on va demander aussi à la victime comment elle se sent dans cette situation.
Je suis très triste. Bon, le fait que les policiers sont là à me pointer du doigt, comme quoi que bon, moi je suis un vendeur de drogue. Je suis venu pour le fait que j'ai des problèmes dans mon pays.
Claudia, pourquoi avoir choisi de travailler avec le théâtre de l'opprimé d'Augusto Boll?
Alors, on a utilisé cette technique qu'on appelle aussi théâtre social parce que ça permet, comme le dit théâtre de l'opprimé, ça permet de mettre en scène des situations d'oppression qui viennent aussi des participants eux-mêmes où c'est possible d'être dans la peau de l'opprimé et de l'oppresseur. Mais ce qui est important de dire, c'est des scènes d'oppression que les gens peuvent vivre dans leur quotidien, puis dans ce qu'a donné, par exemple, dans le spectacle « Si ceci se sait », mais aussi dans les performances qu'on a fait avant. Mais par exemple, la première performance, il y avait un Érythréen qui avait été vraiment torturé, et puis il faisait le rôle du policier. Mm-hmm. Ce qui, dans certains côtés, ça lui permettait d'élaborer certaines choses, mais c'était aussi très dur. Ce qui est conséquence qu'au bout d'un moment, il nous a dit « Moi, je ne peux plus continuer parce que je revis à chaque fois » des réelles violences, mais ça venait des situations qu'ils ont vécues.
Mais dans quelle mesure est-ce que cette technique théâtrale permet de reprendre possession de son destin? En quelques mots, s'il vous plaît.
Wow. Question pas évidente, mais bonne question. Je ne sais pas si ça permet de reprendre possession de son destin, mais ça permet de prendre conscience de situations vécues et de reprendre, disons, le pouvoir d'agir. Pas le pouvoir, mais le pouvoir d'agir. Parce que dans les oppressions, il y a toujours une balance entre oppression et oppresseur. Et puis, on peut être aussi à la fois opprimé et être opprimé et opprimer l'autre.
Absolument.
Après, ça permet de s'exprimer, ça permet d'élaborer, ça permet de dénoncer à partir des situations réelles. Nous, on ne travaille pas sur des textes théâtraux qu'on a choisis. On construit à partir de témoignages, de vie réelle.
Mais justement, Sheila, en quoi est-ce que ces représentations théâtrales permettent de produire un discours alternatif et lequel ?
Je pense déjà que c'est un discours assez politisé, déjà, dans le but de sensibiliser les gens qui ne sont pas, peut-être, qui ne connaissent pas ce genre de problématiques. C'est une démarche, pour moi, qui devient politique dès le moment où, et dans le sens que nos créations, elles sont collectives, elles ont commencé à communiquer ce qui n'est pas visible dans les médias. Et par conséquent, comme je disais, ce qui reste méconnu, malheureusement, pour le reste de la société civile. Dans la pièce, justement, Si ceci se sait, on part des témoignages réels de la vie des réfugiés. Et pour un moment, ce sont eux les protagonistes, ce sont eux qui sont devant la scène et c'est eux qu'on écoute et qu'on regarde.
On va écouter un extrait de l'un de nos invités, Kirtigan, qui a justement participé à cette pièce depuis tout le début.
எங்க குழுமே இருக்கும் தாய்மார்களே, பெரியோர்களே, குழந்தைகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் எனது பணிவான வணக்கம். உங்கள் முன்னிலையில் இன்று நான் பேச எடுத்துக்கொண்ட விடயம் யாதும் ஊரே யாவரும் கேள்வி. C'est un speech. C'est un concours de speech. Quand j'avais 10 ans, j'ai fait ce speech devant 500 étudiants. Chaque année, je participe à ce concours de speech. Chaque fois, je fais devant 500 personnes. Quand je suis quitté le pays de Sri Lanka, ce moment, ma mère, elle ne m'a pas donné le repas. Ma mère, elle ne m'a pas donné l'argent. Ma mère, elle ne m'a pas donné les habits. Même elle n'arrive pas à donner la protection. Mais par contre, elle m'a donné le courage. Le courage, parler devant le public, devant les 500 personnes, 1000 personnes, sans hésitation, sans peur. Osez à poser les questions. Pourquoi devant injustice? Peu importe la langue, c'est l'important, courage.
Kirtigan, quelle est la force de cette démarche?
Je ne sais pas. Claudia, tout à l'heure, elle a parlé de ces démarches d'énonciation, c'est de parler notre propre témoignage. C'est vraiment pour dénoncer quelque chose, pour dire qu'est-ce qui arrive vraiment de notre expérience. Moi, personnellement, je ne vois pas comme ça. Simplement, moi, je partage mon expérience. Pour moi, mais chaque fois que j'exprime notre propre expérience, moi, simplement, je vois comme c'est une thérapie. Et ça m'a rend soin de toutes les choses que j'ai vécues, toutes les choses qui m'ont blessé, mais je n'arrive pas à exprimer ailleurs, par un ami, ou je n'arrive pas. Pour moi, donc, chaque fois que j'exprime, j'ai dit, ça m'a guéri.
C'est donc sentiment, le théâtre permet de se libérer.
Voilà, pour moi, c'est le sentiment qui est plus fort que les autres.
Mais comment est-ce que vous pensez, par exemple, que le discours que vous avez prononcé au cours de cette pièce a été reçu par le public? Et en quoi est-ce que c'est contre-productif par rapport à ce que l'on entend dans les médias mainstream?
Mais encore une fois, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, mais simplement, dès le début de cette démarche de cette théâtrale, ça nous permet d'exprimer, même au début, on ne comprend pas, mais pourquoi on doit exprimer ça? pourquoi c'est important? Moi, je ne pense pas que ça soit quelque chose d'intéressant. Toi, même on ne sait pas, il y a quelque chose qui est intéressant dans ce témoignage. Donc, moi, je ne parle pas de moi. Je vois qu'il y a, beaucoup, beaucoup d'amis. Pour eux, c'est simplement c'est une histoire qui se passe chaque jour, le vie quotidien. Mais tout d'un coup, qui, ça prend en forme devant un public, même à 10 personnes devant. Voilà, ça crée quelque chose d'autre, ça crée une force.
Mais disons que pour les acteurs, c'est un petit peu la magie du théâtre. Ça
ouais,
permet
nous,
de sortir voilà. De soi.
Oui, c'est une magie.
Sheila, depuis 3 ans, l'atelier théâtre ne cesse d'évoluer et de se transformer. Que nous réserve le prochain spectacle improbable qui aura lieu le 29 juin au Festival In Cité, à la Cité derrière, à Lausanne, pardon.
Alors, ça sera une pièce de théâtre qui est toujours basée sur la migration, basée sur des poèmes et des poésies de la migration. Mais cette fois-ci, on a essayé de s'éloigner un peu de notre propre personnage, de nos propres biographies, des acteurs et des actrices dans ce cas-là. Et puis, on parle de passeports multicouleurs, on parle aussi... Ça va parler de plusieurs langues. Et je pense que le but, cette fois-ci, c'était d'aller un peu plus loin dans notre démarche, un peu plus loin dans la démarche théâtrale. Et puis, justement, sortir un peu de notre propre vie pour vivre peut-être la vie de quelqu'un d'autre, pour une fois être encore plus acteur.
Claudia, vous gagnez une certaine notoriété sur la scène lausannoise. Invitée ces prochaines semaines par divers festivals engagés, comment imaginez-vous le futur ?
Mais je peux dire comment on rêve notre futur. On rêve une tournée en Suisse, en Europe, dans le monde international. Des invitations en Colombie, mais le seul problème, c'est comment faire sortir une partie des acteurs et actrices. Parce qu'il faut rappeler qu'une bonne partie, ils ont des situations régulières, très, très compliquées. Mais on rêve, on rêve.
Merci beaucoup Claudia, merci également à Shaila et Kirtigan. Si ceci, voilà, il fallait quand même que je me mette une fois dedans. Si ceci, ce c'est, est le résultat d'un long travail collectif qui a débuté en 2015, des ateliers de théâtre et à la création de la pièce. Ce processus de création bascule certaines idées reçues sur les migrants et surtout permet de leur donner la parole et d'exister, ce qui est plutôt rare en théâtre, Daniel, non ?
En effet, Fabien. C'est ce qui est intéressant dans cette pièce. La force, de ce processus réside dans sa capacité à impliquer des acteurs concernés par les écueils de la migration, et ce, grâce à une méthode inspirée du théâtre de l'opprimé. Dans ce contexte, le théâtre reste un outil de transformation sociale, de reconnaissance, mais également un outil de lutte politique.
C'est une belle conclusion. Merci beaucoup, Daniel. Et soulignons encore que depuis 2 ans, Si ceci se sait a été présenté dans différents espaces en Suisse romande. Les prochaines représentations, elle aura lieu ce samedi 16 juin à 17h à la rue de la Louve, 10 à Lausanne dans le cadre de la Journée nationale suisse du réfugié. Et leur nouvelle création improbable est à découvrir au festival In Cité, rue Cité derrière, le vendredi 29 juin à 22h. Informations à suivre et à retrouver sur notre site www.django.fm. Merci beaucoup, Daniel. Voici Manu Chao et Clandestino.
Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Une chanson un peu de reggae avec Manu Chao et Clandestino sur Radio Django et Radio La Fabrique.
Radio Django, culture.
Bonsoir Linda.
Bonsoir Fabien.
Ce soir, nous retrouvons également à nos côtés Mélissa. Bonsoir Mélissa.
Bonsoir.
Tu es de la librairie Basta et tu es venue avec deux ouvrages que tu as particulièrement aimés. Une fois n'est pas coutume, il s'agit d'un manga et de BD, des ouvrages très engagés, résolument féministes. Alors Mélissa, est-ce que tu peux nous les présenter en quelques mots, s'il te plaît ?
Oui, alors aujourd'hui, je vais vous présenter L'art de la vulve, une obscénité de l'artiste japonaise Rokude Nashiko. Et la nouvelle bande dessinée de Liv Strömquist, I'm Every Woman.
Mélissa, est-ce que tu peux nous dire peut-être deux mots sur les maisons d'édition ?
Alors, le livre de Rokude Nashiko est paru aux éditions Presque Lune et Liv Strömquist chez Rackham. Ce sont deux maisons d'édition plutôt alternatives, engagées, militantes. Et c'est ce qu'on aime présenter chez Basta.
Donc ça sort même au niveau du format physique totalement de la BD classique, hein, c'est des ouvrages un peu plus petits.
Exactement.
Si on prend le premier ouvrage, L'art de la vulve, une obscénité de Rokude Nashiko, quelques mots sur l'auteur tout d'abord.
Alors Rokude Nashiko, de son vrai nom Megumi Igarashi, pardon, est une auteure de manga et une artiste manco du Japon.
Manco donc veut dire
Manco, littéralement, veut dire vulve ou chatte.
Et elle en a fait un manifeste, un art,
voilà,
à part entière.
Exactement.
Et pour ce qui est de l'ouvrage, tu peux nous le présenter en quelques mots, c'est l'histoire de quoi ?
Alors, Rokude Nashiko fait de l'art inspiré de sa vulve. Dans ce manga, elle raconte comment et pourquoi elle a été arrêtée à cause de ça. Parce que c'est une obscénité et ça pousse à une sexualité déviante, apparemment, au Japon.
Donc on voit que ça s'inscrit dans un cadre traditionnel assez sévère.
Ouais.
Et concrètement, donc, elle a fait des impressions... Non, elle a commencé par un moulage. Ensuite, elle a fait des impressions 3D.
Oui, voilà.
Qu'elle a agrandi.
Bah, elle a fait d'abord des impressions 3D où elle a fait des petits paysages avec des personnages, des paillettes. C'est super chou. Et puis, finalement, elle a fait un agrandissement pour faire un kayak.
Voilà, et c'est ça qui a valu son arrestation. C'est ce qu'on comprend dans la BD, d'ailleurs.
Voilà.
Et à ton avis, quelles sont les particularités de cet ouvrage ? Qu'est-ce qui le rend spécial ?
Eh bien, d'abord, c'est la volonté de l'auteur de banaliser la chatte au Japon, qui est tout à fait tabou, alors que chaque année, le pénis est à la fête, il y a des festivals. Enfin, c'est la teuf, quoi. Et de plus, entre chaque chapitre, il y a des parties plus documentaires où elle explique le système carcéral et judiciaire japonais, qui est hyper répressif, et tout ce qui s'est passé aussi pendant qu'elle était en prison, avec des journalistes, Amnesty International. Elle s'est retrouvée avec 9 avocats.
Mmh, tout un bataillon.
Voilà, donc c'est ça qu'elle raconte, et puis aussi comment elle en est arrivée et pourquoi elle a commencé à faire de l'art manco.
Et elle a bénéficié d'un soutien international assez phénoménal.
Complètement phénoménal, ouais. Elle n'était pas du tout au courant et c'était démesuré.
Comment est-ce que ce livre il est perçu ici en Suisse, où on a une autre culture et un autre rapport au sexe ?
Alors son livre, ici, je ne sais pas, il vient de paraître, mais il y a eu beaucoup de journalistes européens et de gens en Occident qui ont réagi quand elle était en prison, qui ont pris sa défense. Et je pense que nous, on ne comprend pas pourquoi ça va aussi loin au Japon dans ce tabou-là, même si on devient tout rouge ici. et que c'est aussi je pense que ça s'applique à tous les pays du monde, ce tabou-là, mais au Japon, ça a l'air d'être particulièrement violent.
Et toi, Mélissa, tu as aimé ce livre ?
J'ai adoré.
Bon, c'est une bonne nouvelle. Ça nous donne envie de le lire, L'art de la vulve, une obscénité, point d'interrogation, de Rokude Nashiko, aux éditions Presque Lune. Mélissa, un deuxième livre que tu nous as apporté ce soir, I'm Every Woman, l'œuvre d'une auteure suédoise, Liv Strömquist. Quelques mots sur cet ouvrage ?
Alors, sur l'ouvrage, elle continue un peu sur sa lancée féministe où qu'elle a commencé avec les sentiments du prince Charles, où elle déconstruit les institutions du couple, de la famille. C'est super féministe, c'est super militant, mais je trouve je trouve ça ouvre d'autres perspectives sur la société.
Au niveau du ton, on est dans quelque chose de très différent, même au niveau visuel, au niveau des dessins. Ouais. On est dans quelque chose de très différent, de beaucoup plus cash.
Pardon, c'est beaucoup plus cash, c'est aussi c'est super ironique. On rit beaucoup jaune. C'est drôle, puis c'est pas ce qu'elle montre, c'est pas du tout marrant. Mais elle le fait de façon assez pédagogique et super référencée.
Et puis elle se réapproprie des fresques historiques, aussi des moments historiques. Elle référence beaucoup ses dessins.
Mmh. Ouais, c'est alors. Oui, elle reprend des histoires. Bah là, par exemple, dans cette BD, elle parle des femmes, des hommes, d'hommes célèbres, comme la femme de Joseph Staline ou de Mao, ou les femmes d'Ingmar Bergman. Mmh. Mais elle s'est intéressée en fait aux femmes qui vivaient dans l'ombre d'hommes célèbres qui en ont souffert et qui se sont sacrifiés pour eux, pour qu'ils puissent aller au bout de leurs ambitions.
Et puis elle remet aussi beaucoup en question la notion de famille nucléaire et de tout ce qu'on veut vendre autour,
ouais,
comme bonheur.
C'est super.
Possible.
Quelques mots peut-être sur cette auteure suédoise Liv Strömquist, Mélissa.
Oui. Bah, elle est auteure de BD, journaliste et animatrice radio. Elle a fait des études en sciences politiques et s'est consacrée spécialement aux questions sociales, mmh, particulièrement à la condition de la femme.
Voilà pour ce livre I'm Every Woman que j'ai entre les mains, très, très joli ouvrage, je pense que ce sera parfait pour prendre avec soi cet été. Voilà. Et puis il y a des personnages toutes nues dedans.
Ouais.
Voilà. Ça parlait un petit peu de choses coquines ce soir. C'était tes souhaits de suggestions estivales, Mélissa. Deux propositions de lecture, L'art de la vulve, une obscénité, de Rokuden Ashiko aux éditions Presque Lune, et puis I'm Every Woman de Liv Strömquist aux éditions Rackham. Tous les deux en vente à votre librairie, bien sûr, la librairie Pasta, à la rue du Petit Rocher, près de la place Chaudron, ou dans la succursale de l'Université de Lausanne à Dorigny. Cet été, Mélissa, les horaires d'ouverture vont un petit peu évoluer comme chaque année?
Oui, alors à Dorigny, dès le mois de juillet, on sera ouvert de 10 à 15 heures et fermé le vendredi. Et Chaudron, ça reste normal. Les deux librairies, on ferme le 21 juillet. À Dorigny, pour 3 semaines, Chaudron, 2 semaines.
Voilà, l'occasion de prendre un petit peu des vacances et de lire la suite pour la rentrée.
Avec plaisir.
Eh bien, on vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup, Mélissa. Un bel été, une belle soirée.
Pareil, merci.
Merci beaucoup. Merci également à toi, Linda.
Merci à vous.
Pour la préparation de ce sujet. Deux découvertes littéraires ce soir qu'on vous proposait, que Linda vous proposait avec Mélissa, qu'on vous met en lien avec tous les renseignements pour vous les procurer et les détails concernant les auteurs sur notre site www.django.fm. Le Grand Direct s'est terminé pour ce mardi. On a parlé de la forêt à l'occasion des 175 ans de la Société forestière suisse. Nous avons également parlé d'un crowdfunding des centres socioculturels pour des places au soleil, des activités donc estivales. Nous avons également parlé d'une pièce de théâtre signée le collectif R et Métis Arte. Et puis à l'instant des suggestions de lecture estivale proposées par la librairie Basta. C'était le programme de ce mardi soir sur Radio Django et Radio La Fabrique. Tous les sujets sont à retrouver et à réécouter sur notre site www.django.fm. On vous les met également sur notre site, sur notre page Facebook. Merci beaucoup à Nico à la technique ce soir. Pour ce qui est du programme de la semaine prochaine, eh bien, écho sur la fête de quartier de Bosson. Et puis Voix d'Exil viendra nous parler d'un sujet migration. Et puis on conclura cette émission forcément en musique, puisque nous serons à 2 jours de la traditionnelle fête de la musique. Programme à suivre sur les réseaux sociaux www.django.fm et sur le Facebook de la radio, avec un petit like ou un petit partage. Ça fait toujours plaisir et ça fait toujours du bien. On reste en contact donc avec vous par ces deux vecteurs. Rendez-vous mardi prochain à partir de 18h pour de nouvelles aventures du Grand Direct. Et puis, dans quelques instants, ne partez pas si vite, le troisième rendez-vous de À Propos, rendez-vous de billets proposé par la rédaction de Phénomène en arrivant dans la région lausannoise. Voilà, je vous en dis pas plus. Rendez-vous donc dans quelques instants. Très belle soirée à vous à l'écoute de vos programmes. Il est 19h.